RFI. Grand reportage.
Donc pour agencer le plot, il faut qu'il y ait un maximum de place.
Donc vite. Schnell, plus vite que Schnell. Entrez tout le matériel, dégagez le bac.
C'est compliqué la logistique en temps de guerre?
C'est plus pas facile que c'est compliqué. Actuellement, donc on attendait les Norvégiens qui devaient arriver plus tôt que prévu. Et malheureusement, donc je les attends depuis 10h ce matin, à peu près 21h30. Ça complique un peu l'affaire, effectivement.
Mais l'exercice, lui, continue?
Oui, bien sûr.
Vous pouvez éventuellement vous retrouver dans une situation assez inconfortable du fait de cet aléa?
Ah, tout à fait. Surtout qu'on est sur un terrain qu'on ne connaît pas bien, sur lequel on peut difficilement sortir des axes pour éviter de tomber dans l'eau. Il y a des lacs un peu partout. C'est fortement déconseillé.
Ravitaillement de nuit pour les chasseurs alpins français déployés au-delà du cercle polaire à l'extrême nord de la Norvège. Au début du mois de mars, l'OTAN a donné le coup d'envoi de Steadfast Defender 2024, le plus grand exercice jamais organisé depuis la guerre froide. Une manœuvre qui se décline de l'Arctique jusqu'aux frontières de la Pologne. Face à la Russie, l'OTAN montre ses muscles. C'est un grand reportage de Franck Alexandre.
La deuxième caisse, dans la foulée?
Oui, s'il vous plaît, oui.
Les deux cale-pieds de cul, là, on les dégage?
Oui, oui, absolument.
Tarte des chasseurs alpins vissés sur le crâne, bottes et même surbottes sur un treillis blanc, les ordres de l'adjudant-chef JB fusent. Le ravitaillement promis par les forces norvégiennes peut arriver d'un instant à l'autre et il va falloir dépoter, car à proximité, dans un repli de terrain, une file de 68 véhicules articulés chenillés BV-206 taillés pour l'Arctique attend de pouvoir faire les pleins. À chaque instant, cette concentration peut se transformer en cible. L'instant est crucial, lâche le capitaine Vincent, responsable de la logistique.
La logistique, c'est le point le plus vulnérable. On s'adapte, on met des dispositifs de sûreté, il y a des soldats autour, mais on sait que c'est vulnérable. On a juste du retard avec la livraison, donc du fuel, des repas et de l'eau. Si on n'a pas ce point de rendez-vous et ce point de ravitaillement, la guerre ne peut pas commencer.
Là après, là on peut mettre,
la flotte au fond.
On met la flotte, on met les musettes. On mettra le groupe, par contre, devant, le groupe électrogène.
Véritable révélateur d'une faiblesse qu'il faudra corriger. Le ravitaillement s'est finalement achevé au petit matin. Les équipages ont 3 jours d'autonomie. Une petite bataille va pouvoir se jouer aux environs de Massy, Hameau, Lapon. Dans cette région de lac gelé sont réunies les meilleures troupes de montagne de l'OTAN. Lieutenant-colonel Marc-Antoine, chef opération du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, le 7e BCA, dont la réputation n'est plus à faire.
Nous sommes sous les ordres du Finnmark Land Command, qui est un commandement territorial norvégien. Dans cette force, on a différentes nationalités, puisqu'il y a des bataillons et compagnies norvégiennes. Il y a également plusieurs compagnies finlandaises, une compagnie de combat et une compagnie logistique. On a une compagnie suédoise également. Il y a un bataillon italien, et avec qui on va plus particulièrement interagir, puisqu'on est vraiment dans la même zone d'opération. Et le bataillon français, donc le Battle Group Nordic Star. Donc voilà la force d'opposition de l'exercice à laquelle nous appartenons, et avec qui nous allons manœuvrer pendant une semaine.
Non, mais non deve neanche sentirsi questa cosa in giro, perché se no, perché se poi viene c'è qualcuno in italiano che alza il telefono e dice ma chi è provenzano?
Chargeur calé sur une veste camouflage hiver, lunettes de ski rouge et plumes de corbeau noir fixées sur le casque. Voilà le colonel Francesco Lamora, chef des Alpini italiens. Dans sa carrière de soldat, il a connu les montagnes d'Afghanistan, celles du Liban. Il lui manquait, dit-il, de se confronter au Grand Nord.
Le premier objectif de Nordic Response est d'augmenter et de consolider l'interopérabilité entre membres de l'Alliance. L'armée italienne veut accroître ses capacités à vivre, manœuvrer et combattre dans cet environnement arctique. Nous avons beaucoup d'expérience avec les chasseurs alpins français et bien sûr, nous sommes prêts et bien entraînés.
Dans le scénario retenu, 450 chasseurs alpins français et 300 alpinis jouent les rouges, l'ennemi face aux troupes de l'Alliance. La mission des franco-italiens, dit le lieutenant-colonel Marc-Antoine, doit sur la carte, c'est de freiner la progression d'une colonne blindée allemande pendant 2 jours.
On est une force qui serait installée dans cette zone. Et la force de l'OTAN, elle, viendrait chercher du coup à nous repousser et à faire en sorte que nous ne restions pas sur ce terrain. Et donc face à nous, nous aurons une brigade constituée de Norvégiens et d'Allemands. Et donc nous, notre objectif, c'est en termes militaires, parfois on dit freiner, c'est échanger du terrain contre du temps. Donc on n'est pas là pour tenir coûte que coûte le terrain et les empêcher absolument de passer. On est là pour faire en sorte que ce soit difficile pour eux, qu'ils perdent des forces et qu'ils perdent du temps.
couloirs de mobilité sont rares, partout. Une neige profonde où même les motos chenillées s'enlisent.
Il avait juste un fusible qui avait pété, Axel. Donc c'est bon, il a pu régler le truc, on va s'en sortir.
Vous allez vous en sortir ?
Oui, c'est bon, je pense qu'on va s'en sortir. Non, tout est bien parti.
C'est pas trop rude ?
Bah non, on est là pour ça, on s'entraîne pour ça en France. Donc y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'acclimater ici. Hein.
En fait, ça qui est bien ici, c'est qu'il fait froid, c'est ça.
Ah, c'est le fond du job. Je pense que pour des troupes de montagne, c'est le fond du job ici. C'est les basiques, c'est ce pour quoi on s'est engagé de toute manière.
Vous éclatez alors.
Exactement.
Route 45, surnommée la ligne Grizzly, l'un des rares endroits praticables. Des antennes surplombent, des filets de camouflage masquant les chenillés. L'un des deux postes de commandement français émerge à peine de la neige. Dans la nuit, les commandos montagne, qui eux évoluent off-road, ont accroché l'adversaire et leur position s'affiche sur les écrans du système de combat, du PC, mais pas seulement.
Donc pour vous, noir, n'avez pas de vision claire de votre dispositif. Avez besoin que vous m'envoyiez un CIPREP.
Vous avez mis à jour la carte ?
Oui. Oui, tout à fait. En fait, là, j'ai récupéré l'ensemble des éléments qui m'ont été donnés pour pouvoir mettre en place les positions secondaires des unités telles qu'elles m'ont été annoncées. Et pour que nous, on puisse continuer à suivre sur cette carte synthèse et, qui est notre carte de plan B en cas de brouillage ou en cas de chute du système.
Rien ne remplace le papier ?
Rien ne le remplacera totalement.
Donc là, on est ici, on est au niveau de ce village, là, le village s'appelle Sulawopmi.
Colonel Marc-Antoine, chef opération.
Et donc là, vous avez une partie du poste de commandement. Et donc là, nous, on suit surtout la situation pour préparer la suite. Donc là, on a fait beaucoup de tirs d'artillerie. On a Bleu qui commence à avoir ses premières unités, celles qu'il voyait au loin et qui nous faisait beaucoup de renseignements, qui commence à être trop exposées. Donc avant qu'elles soient détruites par l'artillerie adverse, là, on va les faire replier sur une position secondaire. Donc pour l'instant, on arrive à coller à notre plan et à ce qu'on avait prévu en termes d'action ennemie.
Les premiers éléments de ma compagnie seront pris.
Si le combat d'altitude est l'ADN des chasseurs alpins, depuis l'Ukraine, le grand froid est redevenu une priorité pour les forces de l'OTAN. La Finlande, qui vient d'intégrer l'Alliance, possède 1300 km de frontière avec la Russie. Mais la 27e brigade de montagne a toujours conservé en son sein un noyau d'experts, le groupe militaire de haute montagne doté de 10 alpinistes chevronnés, à l'instar du major Sébastien Bois.
Le grand froid, il est revenu sur le devant de la scène il y a peu de temps. Hein. Après, on a justement ce groupe militaire de haute montagne, en fait, c'est un petit peu un laboratoire et puis aussi une réserve d'expérience. Ils savent quel type de rochers il faut utiliser, quel type de duvet. On prend un petit peu ce qu'il y a de mieux chez les Norvégiens, chez les Finlandais, et ce qui fait qu'au final, on arrive à être plutôt bon. Là, on est soutenu par l'armée finlandaise, donc ils nous ont prêté deux types de tentes, une sorte de yurt, hein, qui sont pour 10-12 personnes. Et en fait, eux n'utilisent pas de piquets pour ces petites tentes. On taille dans des bouleaux les piquets, en fait. Bah, les pièges des grands froids, en fait, il faut être assez méticuleux. Si vous avez un petit peu de vent, on peut rapidement attraper des gelures. Si vous attrapez des gelures, vous êtes plus opérationnel. Également, le soleil avec ce qu'on appelle l'ophtalmie des neiges, avec la réverbération du soleil sur la neige. Et puis le but dans le grand froid, c'est de ne pas transpirer, de façon à si après vous êtes amené à faire du statique, de ne pas avoir à gérer cette humidité qui, avec l'effet du vent, peut accentuer le froid. On a besoin de plus de calories qu'en temps normal. Donc c'est pour ça que les rations sont plus riches en calories, autour de 5000 calories jour. Et vous voyez, on ne grossit pas, quoi. On a vraiment besoin d'apporter du carburant pour fonctionner dans le grand froid. Hein.
Le bout de la route, du nord de la Norvège, température ressentie moins 20 degrés, de la poudreuse jusqu'à la taille, le 93e régiment d'artillerie de montagne tient la ligne avec la section de l'adjudant-chef Thomas.
Alors bah écoutez, là on est sur une des positions de tir mortier de 120, donc mortier lourd, qui nous sert à appuyer les forces amies qui sont en avant de notre position et qui eux sont directement au contact de l'ennemi.
On est sur un plateau battu par les vents.
Exactement. On est sur un beau plateau qui nous permet à la fois, grâce au mouvement de terrain, de ne pas être vu directement par l'ennemi et pour nous d'avoir quand même quelques vues plongeantes sur le compartiment de terrain d'où l'ennemi est censé arriver.
Vous avez tiré ?
On a déjà eu 4 missions de tir depuis ce matin qui nous ont permis de freiner l'ennemi dans son avancée, de lui causer des pertes, surtout d'engins motorisés et un peu d'attrition dans les rangs de l'ennemi.
Hugo. Je suis Sergent Hugo.
Là voilà votre canon de 120.
Oui, voilà le fameux mortier de 120 mm. Monter sur ski, une grande première. C'est le grand test. Première fois qu'on utilise ce système pour le déplacer le mortier. On est un peu le crash test. On dit ce qui va, on dit ce qui va pas. puis après ça permettra de faire des versions suivantes améliorées.
Alors qu'est-ce qui va pas ?
Qu'est-ce qui va pas ? Le temps d'installation est un peu long. Quand on sait que le danger principal en artillerie c'est la contre-batterie, c'est-à-dire quand on tire on est décelé et on peut du coup se prendre des salves adverses. Sauf qu'on met dans la neige comme ça, on met facilement 10 voire 15 minutes pour le temps que le véhicule vienne récupérer le mortier, qu'on le monte sur les skis, qu'on fasse la disposition route, ça prend vite pas mal de temps. Cette nuit, on a fait le plein de carburant, on a récupéré de la nourriture, on a récupéré de l'eau, et puis après c'est phase de déplacement avec ces aléas, donc les véhicules qui s'embourbent un petit peu, donc il faut les tracter, on n'a pas dormi. Ça sort de ce qu'on a l'habitude de faire, où on a un peu plus chaud, là ça ravive, ça maintient jeune.
L'infanterie a pris position à quelques centaines de mètres, plus au nord, avec des missiles anti-chars Eryx d'une portée de 600 mètres. Mais le capitaine Mayeul et ses hommes le savent, à si courte distance, s'ils se font repérer par les blindés adverses, ils se feront tailler en pièces.
Avec mon groupe, nous on est situé sur un front de 500 mètres. Pour ce faire, du coup, on a fait des trous de combat. Le but pour nous, ça va être de s'enterrer au maximum. Pour faire un bon trou de combat, ce qu'il nous faut, c'est bien d'être invisible. Donc nous, ça fait maintenant 7 jours qu'on a été déployés ici. Pour la protection balistique, c'est simple, on a pelleté de la neige sur l'avant de notre trou de combat et on l'a tassé un maximum pour pouvoir avoir une opacité importante de la neige. C'est mon trou de combat principal, c'est celui qu'on arme en permanence.
Combien d'hommes dans ce trou ?
2. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc on a le trou de combat principal ici, qui a où moi je serai durant le combat. J'ai un visuel sur un autre trou de combat plus à l'est, où seront situés deux hommes à moi avec une mitrailleuse. J'ai aussi visuel sur mon autre trou de combat plus à l'ouest, et j'ai une pièce anti-char dessus. Et d'ici, du coup, j'ai visuel sur mes mecs, sur mes hommes, et je peux les commander avec plus de facilité. Donc là, voilà, on est à l'intérieur du trou de combat. C'est assez sommaire, mais comme vous voyez, on a quand même assez de place pour surveiller. Sans être vu, vous voyez la petite fenêtre qu'on a. On voit quand même beaucoup de choses, hein, d'est en ouest. On est chasseur alpin, donc oui, c'est sûr que c'est notre milieu de prédilection. On a l'habitude de travailler dans nos Alpes à nous, mais ça change un peu. Le paysage est différent, c'est beaucoup plus plat. Mais les conditions sont sensiblement les mêmes. Le froid, de la neige. On connaît cet environnement, on est habitué à travailler dedans.
Volet arctique des exercices de l'OTAN, Nordic Response vient de se terminer, mais Steadfast Defender 2024 est loin d'être achevé. Une force de réaction rapide vient de franchir la Vistule en Pologne. Le général américain Randolph Stoddenhaus, responsable des opérations du commandement militaire de l'OTAN, est venu en personne superviser cette séquence dénommée Dragon 24. L'OTAN est prête, martèle-t-il.
C'est génial, il y a beaucoup de défis à chaque fois. Mais c'est pour cela que cet exercice Steadfast Defender rassemble 90 000 soldats, marins et aviateurs. Nous devons comprendre ces défis. Donc si nous ne nous réunissons pas dans des exercices de cette taille-là, si nous ne comprenons pas où se situent ces défis, nous ne pourrons pas les surmonter. Et l'OTAN l'a fait, surtout depuis l'invasion de l'Ukraine. L'OTAN a réussi à élever son niveau. Si nous n'avions pas pu rassembler ici autant de forces, nous ne serions pas la force collective dont nous avons besoin.
L'OTAN, dans ses scénarios, n'hésite plus à pointer Moscou comme adversaire potentiel. Avec Dragon 24, l'objectif assigné aux troupes est justement de se projeter à la frontière polonaise pour repousser une force adverse. Un signalement stratégique avec 18 000 soldats, dont 700 Français, commandés par le colonel Philippe Leduc et intégrés à une brigade polonaise.
On montre bien qu'on est capable de se déployer très rapidement chez un allié. Ici, c'est du char, c'est du véhicule de combat d'infanterie, on n'est pas dans des forces légères, on est dans des forces qui sont blindées, qui sont puissantes, qui ont une bonne capacité de franchissement en tout terrain. et qui sont parfaitement alignés avec ce que déploient nos alliés, puisque nos alliés polonais, nos alliés allemands, nos alliés américains ont tous du char lourd, ont tous du véhicule de combat d'infanterie. Et on va conduire pendant une quinzaine de jours un exercice qui nous amène à traverser la quasi-totalité de la Pologne. Là, ici, vous êtes sur une phase qui est extrêmement importante, puisqu'il s'agit d'une phase de franchissement d'une coupure humide, en l'occurrence la Vistule, qui est le principal fleuve polonais. Mon groupement tactique va franchir la Vistule et ensuite va poursuivre sa progression plein est. La France est vraiment droit dans ses bottes en termes de capacité déployée, en termes de capacité à s'intégrer et en termes d'être au bon niveau de rendez-vous de forces déployées par rapport aux objectifs de signalement stratégique et d'interaction concrète sur le terrain avec nos alliés.
C'est le poste de commandement, c'est ça ?
Oui, c'est ça exactement. Ici, vous êtes au poste de commandement. Donc c'est tout ce que va diriger les pompes G. Donc c'est pour avancer sur l'eau. Donc en fait, ici vous avez les deux manettes qui vont me permettre de diriger l'engin quand je suis sur l'eau. Attendez.
En temps de guerre, les ponts seraient probablement détruits. Alors des barges embarquent les chars américains Abrams, les léopards allemands, et c'est au tour d'un escadron de 13 chars Leclerc de franchir la Vistule. Une première pour le capitaine Vianney du 5e régiment de dragons.
C'est un exercice de grand volume. J'avais participé à ce type d'exercice, mais uniquement en France avec des unités françaises. Là, c'est la première fois que je le réalise dans un contexte interallié. Comme quand on apprend à jouer un sport collectif, il y a toujours des temps d'apprentissage où on fait des exercices très répétitifs pour finalement réussir à jouer efficacement ensemble et à faire du beau jeu ensemble.
Quand tu lèves la main comme ça, ça veut dire quoi ?
En fait, ça c'est pour l'avant. Quand il lève la main en avant, c'est pour l'avant. Et moi, je suis le bateau qui a vers sa hanche.
Pour le temps, le dernier exercice d'une telle ampleur, c'était Reforger, en 1988. Au-delà du combat, il faut donc aujourd'hui réapprendre à déplacer des armées. Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, est venu observer la manœuvre.
Les dimensions de déplacement de très grandes unités sur des très grandes distances, avec toute la logistique que ça implique, les déplacements en convoi, les franchissements, la coordination qui est nécessaire, c'est quelque chose qui est une mécanique qui doit être extrêmement bien huilée. C'est très concrètement des savoir-faire qu'il faut redécouvrir. En théorie, nous y sommes prêts. Ok, mais concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que de prendre la route avec une rame de plusieurs dizaines de véhicules ? Qu'est-ce que ça veut dire que de prendre les trains ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un véhicule se perd, se trompe de route, qu'un véhicule tombe en panne sur le bord de la route, comment on fait pour le dépanner, etc. Et puis après, je ne parle pas des éléments plus tactiques, le franchissement, plus de 300 mètres de pont sur la Vistule, etc. Ce que ça représente concrètement, il faut le réapprendre.
Le franchissement d'un fleuve, c'est une mécanique fine, une chorégraphie interarmes qui s'effectue toujours sous haute protection, précise le colonel Leduc.
Un franchissement de cette ampleur, on ne le réalise pas directement sous le feu adverse. Sinon, il arrive ce qui est arrivé en Ukraine, des pertes conséquentes et un échec. Nos alliés polonais ont mobilisé un certain nombre de moyens. Il y a des pièces antiaériennes qui sécurisent l'ensemble du site. Vous avez des hélicoptères d'appui polonais qui ont fait des passes et vous avez l'armée de l'air polonaise qui symboliquement a fait plusieurs passes avec ses F-16 et ses Su-22 pour sécuriser la zone, de manière à ce que les bataillons en bas, eux, franchissent le plus rapidement possible et reprennent leur progression plein est.
Et il y a une certaine urgence à refaire ces gammes, car certains scénarios font état d'un possible conflit avec la Russie d'ici la fin de la décennie.
Ma mission est d'éviter la guerre.
Général d'armée Pierre Schill, patron de l'armée de terre française.
L'enjeu, il est réellement, et c'est le fond de la stratégie de l'OTAN aujourd'hui, c'est pas de dire qu'on va gagner une guerre, c'est de faire en sorte que, par le découragement, l'OTAN veut se montrer suffisamment forte pour éviter une montée aux extrêmes et à l'affrontement et qu'il y ait des actions russes. Bon. Maintenant, on sait que les actions, elles peuvent être directes et frontales, elles peuvent se faire de manière qu'on appelle hybride, c'est-à-dire de différentes façons, etc. Donc c'est tout en décourageant, tout en se montrant fort pour dissuader, il s'agit de se préparer à la réalité de la guerre. Ce découragement, il repose fondamentalement sur la crédibilité. Et donc, il y a un enjeu à être de plus en plus crédible au fur et à mesure que nous avançons. Ce soir, il faut que nous soyons prêts. Demain matin, il faut que nous soyons encore plus prêts. Et le jour d'après, encore plus.
Face à la Russie, l'OTAN montre ses muscles. Un grand reportage de Franck Alexandre, réalisation Victor Hull.